Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Un homme silencieux, un père sans parole dans l'Évangile et pourtant l'homme à qui Dieu a confié son fils, Saint Joseph. Bonjour à tous et bienvenue dans Vivante Église. En ce 19 mars, l'Église célèbre Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, gardien du Rédempteur. Une figure discrète, presque effacée et pourtant importante dans l'histoire du salut. Pour en parler, je suis en ligne avec Sœur Katharina Angela. Bonjour ma sœur.
Bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes depuis 1993. Vous animez depuis plusieurs années des retraites consacrées à Saint Joseph.
Oui.
Vous êtes également auteur aux éditions des Béatitudes de deux ouvrages consacrés,
oui,
à Sainte Bernadette, notamment « Prier le rosaire avec Bernadette de Lourdes » et « Neuf jours avec Bernadette de Lourdes ». Vous publiez aujourd'hui, sœur Katharina Angela, un nouveau livre paru très récemment, Joseph de Nazareth selon la Bible. Cet ouvrage est paru également aux éditions des Béatitudes. Et si vous le voulez bien, nous allons passer ce Vivante Église en votre compagnie et en compagnie aussi de Joseph de Nazareth selon la Bible et au fond de tous les Josephs qui ont pu aussi parsemer l'histoire aussi biblique. Il y a beaucoup de Saint Joseph et en particulier aussi dans l'Ancien Testament. Alors racontez-nous.
Alors bonjour à tous, c'est avec joie que je vous partage un peu ce chemin qui a conduit à ce livre. En fait, pour moi, donc j'étais toujours un peu gênée à savoir que Saint Joseph, il est aussi un des saints patrons principaux de la communauté des Béatitudes dont je fais partie. Donc Saint Joseph, j'en ai entendu parler depuis que, voilà, même avant que je sois à la communauté, bien sûr. Donc, mais ce qui m'a toujours un peu gênée, c'était ce côté un peu trop, comment dirais-je, comme si Saint Joseph était seulement celui qui produisait des grâces, qui donnait des cadeaux, qui faisait pleuvoir de la providence, etc. Et donc, et puis j'étais toujours un peu gênée aussi de... pas gênée, ça me satisfaisait pas plutôt de lire Saint Joseph sur tout ce qui est un peu plus dévotion personnelle. Donc je me suis dit, mais la parole, elle est quand même riche. Et puis j'ai eu la joie donc de suivre un petit cours de joséphologie, comme on dit, initiation à la joséphologie, donc qui m'a vraiment beaucoup marquée. Et qui m'a fait connaître une autre méthode donc d'approcher ce grand saint, Saint Joseph, donc celui d'aller chercher dans la parole de Dieu avec une méthode qui est d'origine juive, avec la méthode de la répétition de racines, donc c'est-à-dire dans la Bible quand on utilise un mot, quand on utilise un nom et dans un endroit et qu'on le réutilise à d'autres endroits, voilà, ça, ce n'est pas anodin. Donc, il y a un lien à chercher ou à trouver ou à savoir lire. Et donc, pour tout bon juif, quand ils ont lu la généalogie de Jésus chez Saint Matthieu, puisque Saint Matthieu s'adresse particulièrement aux juifs, quand il est dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit le Christ, donc, bah, je suis certaine que pour eux, ni un ni deux, et donc ils ont pensé à Joseph le patriarche, fils de Joseph, fils de Jacob, pardon, tout comme voilà, Joseph de Nazareth. Donc dans mon travail, je me suis vraiment attardée à aller voir qu'est-ce que la parole nous dit du patriarche Joseph pour éclairer ce silence des évangiles. Parce que si on n'en parle pas, c'est pas trop évident donc pour le lecteur de l'époque. Et donc, pour moi, donc je me suis attardée beaucoup sur, enfin, toute la première partie de mon livre est pratiquement sur la figure du patriarche Joseph et sur tout ce qu'on en dit, particulièrement déjà commencer de son nom, qu'est-ce que ça veut dire, donc Joseph, celui qui ajoute, qui multiplie, celui aussi qui ôte la honte de sa mère, donc c'est lui qui est voilà qui multiplie la fécondité, les dons de Dieu, qui multiplie même là où il n'y a rien, donc comme la famine hein, en Égypte. Et puis surtout donc voilà, il y a cet homme au songe, Dieu lui parle à travers des songes, lui révèle sa mission à travers des songes. Et ça c'est aussi la même chose pour Joseph de Nazareth. Dieu révèle la mission de Joseph de Nazareth à travers ses songes. Il a le songe de l'ange qui lui dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Et le songe qui lui dit « Pars en Égypte parce qu'on en veut à la vie de l'enfant ». Voilà. Donc et puis ben, Joseph le patriarche, lui, il rêve en grand. C'est voilà, il rêve tout ce que le Seigneur va faire avec lui en l'utilisant comme étant un peu le sauveur du monde. Donc et c'est exactement ce terme qui est utilisé dans la Genèse. Donc il est donc le mot est utilisé en égyptien, mais la Bible de la Septante on traduit en grec le sauveur du monde. Et donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui nous parlent un peu de cet homme. Bien sûr, la parole de Dieu ne nous dit rien. Enfin, Joseph de Nazareth ne dit mot. Sinon, la parole nous laisse entrevoir qu'il ait pu prononcer que le nom de Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Parce qu'en fait, le silence de Joseph est son arme la plus importante, la plus forte, celle qui nous, qu'aujourd'hui peut nous enseigner beaucoup, hein, dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tracas, beaucoup de distractions,
d'anxiété voilà. Aussi, beaucoup de peur.
Hein. Bah, exactement. Alors, donc le silence de Joseph est vraiment un vrai rempart.
Alors le silence de Joseph peut être aussi un silence doux qui peut-être apporte paix et enlève toute peur et toute anxiété.
C'est alors, un silence habité.
Silence habité. On va y revenir au cours de ce Vivante Église. J'aimerais oui. Très simplement vous demander, sœur Catherine Angela, ce livre est paru, Joseph de Nazareth selon la Bible. Pourquoi avoir consacré, à part avoir écrit sur Bernadette de Lourdes, et au fond, quand on parle de Bernadette, on parle de l'Immaculée Conception, pourquoi un ouvrage et un tel travail sur Saint Joseph, pour vous personnellement?
Pour moi, personnellement, ben, je pense que c'est... Enfin, j'ai bien l'impression que Bernadette et la Vierge Marie m'ont conduit à Saint-Joseph. Donc, et que pour moi, c'est quelque chose... C'est lié à Lourdes, de fait.
C'est-à-dire
le jour où on m'a remercié de ce service que j'avais rendu à Lourdes, la personne qui m'a remercié publiquement a comparé donc, mon travail à... En le comparant à la figure de Joseph le patriarche. Donc ça m'avait marqué, ça m'avait surpris, mais ça m'a travaillé. Et puis la Providence a fait que je suive ce cours, qu'il me parle, que voilà, rien n'arrive au hasard dans nos vies. Hein. Et donc Joseph de Nazareth, pour moi, il était là au moment peut-être où j'en avais le plus besoin de rentrer dans cette... dans cette plus grande intimité avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, avec les autres saints, dans ce silence du cœur. Et donc pour moi, c'est voilà, je dirais que je découvre tous les jours des perles de l'action de ce saint si discret et pourtant si puissant.
Alors en vous écoutant, Saint Joseph, un guide?
Oui, un père, un modèle, un protecteur, un... Voilà, je pourrais...
Un homme juste aussi, un homme juste, un homme dans, juste les... Oui, oui. Dans l'évangile selon saint Matthieu, voilà, on lit juste. Joseph, son époux, qui était un homme juste. Voilà.
Mais le juste biblique, c'est celui qui est complètement ajusté à la volonté de Dieu. Il n'est pas seulement juste de droit, il a un cœur qui est ajusté à la volonté de Dieu, donc il est tout ajusté à l'amour.
Qu'est-ce que cela signifie dans la tradition biblique d'être un homme juste?
Ben, ce que je viens de dire exactement, c'est-à-dire un homme juste, c'est un Abraham qui était juste parce qu'il a cru. Hein? C'est donc un Joseph, le patriarche, qui était juste, c'est un David. Donc tous ces hommes justes, Noé qui était juste, Tamar qui était juste, donc tous ces hommes et ces figures bibliques, ces hommes et ces femmes qui ont comment dire, contribué à l'accomplissement de la volonté de salut de Dieu, le Père.
Alors, à plusieurs reprises, Dieu parle en songe, hein, il parle en songe au patriarche aussi, Joseph, oui. Il parle aussi à Joseph de Nazareth en songe. À oui. chaque fois, l'évangile dit, il se leva. Ce détail d'ailleurs est frappant. Que nous disent vraiment ces songes sur son discernement et sa foi?
Bah, ils disent son docilité extrême, son obéissance absolue à la voix de Dieu. Donc Joseph, il n'hésite pas un instant à se lever, à partir, même si les choses le dérangent, puisque dans son projet, il ne se sentait pas à la hauteur peut-être de cette mission incroyable d'être le protecteur de Jésus et de Marie. Donc je ne crois pas qu'il ait un seul moment pensé à autre chose qu'à l'honneur que Dieu lui faisait. Donc il ne se sentait pas à la hauteur, donc il voulait la renvoyer, et puis à travers ce songe, il sait que Dieu peut parler dans les songes. Il est un juif pieux, il connaît les Écritures, donc il n'a eu aucune excitation, aucune. Et à l'instant même, il se lève et il agit, comme quand il part en Égypte, c'est de nuit. Il se lève, il prend l'enfant et sa mère, et il part. Et donc c'est vraiment... comment dirais-je, c'est comme si à travers le songe Dieu lui parlait en direct, et donc il n'a pas de doute sur cela, il a une foi, une confiance absolue, un abandon aussi, parce que partir comme ça à l'aventure, c'est bien.
Alors Joseph et Joseph de Nazareth, et c'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci, toujours à partir des Écritures. Puis je rappelle qu'il y a aussi cet ouvrage qui est paru aux éditions des Béatitudes, et c'est vous qui l'avez écrit, sœur Catharina, oui, Angela. Oui. Joseph de Nazareth selon la Bible. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, et pourtant il est pleinement père. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend sur la paternité?
En fait, il est là pour faire grandir. Son nom même l'indique. Il est là pour faire grandir. Pour faire grandir cet enfant qui a choisi de se faire homme pour nous sauver dans toute notre humanité. Et celui qui était choisi par le Père éternel pour être ce visage du Père sur la terre, c'est Joseph. Donc c'est quelque chose quand même d'incroyable qu'un homme qui n'est pas immaculé, hein, qui n'est pas préservé du péché, comme l'a été la Vierge Marie et l'Église le dit. Certains saints pensent que Joseph aussi était immaculé, mais cet homme, il était simplement rempli d'Esprit Saint. Et de foi, comme tous les personnages Joseph qui sont nommés dans la Bible, hein, rempli d'Esprit Saint et de foi, ce Joseph-là, il accomplit la volonté de Dieu, mais dans une simplicité déconcertante, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. et voilà, sans dire mot. Et
peut-il offrir aujourd'hui une image apaisée de la masculinité?
Bien sûr, ouais. Bien sûr, parce que Joseph, pour faire tout ça, il ne devait pas être un vieillard, certainement pas. Il devait être un homme fort et vigoureux pour pouvoir protéger la Vierge et l'enfant. Et j'aime beaucoup ce qu'il laisse entendre Saint Bernard quand il parle du mariage entre Marie et Joseph. Il dit que grâce au oui de Joseph, grâce au saint mariage, comme il l'appelle, la femme a été protégée du dragon dans l'Apocalypse. Vous voyez, il y a dans ce chapitre 12, il y a ce dragon qui est posté auprès de la femme, qui est là enceinte et qui attend d'accoucher. Et bien, il est posté là en attendant l'enfant. Et puis, tout à coup, le scénario change. Le combat se déplace dans le ciel. Et donc, pour Saint Bernard, dit que comme Joseph a dit oui à ce mariage, le démon n'a rien pu voir, le dragon n'a rien pu voir, puisque l'événement extraordinaire a été caché dans l'ordinarité d'un mariage quelconque. Il n'y a pas eu de heurts. Et Joseph n'a pas dit de mots, ça s'est passé dans ses songes, Il a accompli sa mission, il a pris Marie chez lui et tout est rentré dans une normalité qui déroute le démon. Il n'y a pas de paillettes.
Alors, Saint-Joseph, et vous en parlez aussi dans votre ouvrage, est appelé le patron de la bonne mort. Mais de quelle mort s'agit-il?
Alors, pour ma part, je trouve que c'est vraiment... Joseph, il nous apprend à mourir à nous-mêmes, pour nous. Il est là, dans ce temps précis du passage de la grâce. Il nous apprend à saisir le moment de grâce pour mourir à nous-mêmes. Parce que parfois, on laisse passer des occasions, le Seigneur nous fait signe dans notre vie spirituelle pour dire, voilà, tu vas là. Là, par exemple, il faudrait que tu sois plus douce ou plus tu gardes le silence ou que tu humilies ou que, voilà, toutes des choses qui nous font grandir spirituellement. Eh bien, la figure, le modèle de Joseph nous aide à saisir ce moment de grâce pour... peu à peu mourir à nous-mêmes, de plus en plus, pour faire vivre le Christ en nous.
Alors, Joseph, c'est l'homme juste, hein, c'est le grand silencieux, celui qui va protéger Marie, celui qui va protéger Jésus. C'est le saint patron aussi de la bonne mort, et c'est aussi Joseph, l'homme du réconfort. Oui. Vous avez aussi un petit passage aussi dans votre livre.
Oui, ben parce que, en fait, en m'appuyant donc sur ces figures de Joseph, donc il y a un tout dernier Joseph dans le Nouveau Testament, c'est Joseph Barnabé. Joseph qu'on surnomma Barnabé, l'homme du réconfort. Et donc pour moi, ce petit clin d'œil, c'est comme si on nous disait, ben voilà, la fine pointe de Joseph, de personnage Joseph biblique, c'est d'être l'homme du réconfort, celui qui vient conforter. Et puis ce Barnabé, il est là au moment clé de la vie de Saint Paul, le grand apôtre des nations, et il est là au moment où on donne pour la première fois le nom de chrétien aux disciples du Christ. Donc, pour moi, ce Joseph Barnabé éclaire d'une lumière particulière la mission de Joseph de Nazareth, d'être l'homme du réconfort, celui qui a réconforté certainement Marie et Jésus dans toutes ces vicissitudes. Ça ne devait pas être quand même très facile et dans la joie qu'ils ont quitté leur terre, qu'ils étaient en terre étrangère, qu'ils étaient probablement, ils n'avaient pas tous les jours de savoir comment ils allaient finir leur journée pour manger ou pour s'habiller ou pour vivre. Il y a eu quand même de la précarité. Même dans tout ce que, leur contexte pouvait leur faire vivre, mais je suis certaine que Joseph était ce réconfort, ce pilier sur lequel Jésus et Marie ont pu s'appuyer.
Alors, entre la deuxième partie de votre livre et la troisième partie, alors la deuxième partie s'intitule « Rencontrer Joseph à partir du Nouveau Testament », et vous le faites bien. Et la troisième partie, la dévotion à Saint-Joseph, on en reparlera dans quelques minutes. Entre cette deuxième et troisième partie, il y a un petit questionnaire. Pourquoi ?
Après chaque paragraphe, j'ai voulu faire un petit questionnaire justement pour que le lecteur qui prend ce livre puisse un peu se laisser questionner par tout ce qu'il lit et se mettre lui-même en route avec Joseph. Des questions toutes simples, hein, qu'est-ce que ça m'apporte, comment je le vis dans ma vie, voilà.
Oui, est-ce que je vis ma dévotion à Saint-Joseph, voilà, ai-je déjà fait aussi un pèlerinage dans un sanctuaire ou une chapelle dédiée à Saint-Joseph?
Pour la troisième partie, pour la première et la deuxième partie, il y a des questions plus sur la figure de Joseph, sur ce qu'il peut m'apporter moi, comme par exemple à la fin de la première partie, de la deuxième partie, voilà, je y arrive. Par exemple, comment je vis ma filiation, suis-je attentif à la paternité de Dieu sur ma vie, ou bien que veut dire pour moi être juste, de quelle façon est-ce que je m'ajuste à la parole de Dieu, puis-je reconnaître dans ce Joseph, homme du réconfort, puis-je me reconnaître moi-même, est-ce que moi je suis un homme de réconfort, une femme de réconfort, ou bien quelle est ma relation au temps? Comment est-ce que je sanctifie le temps à l'exemple de Saint-Joseph? Voilà, c'est toutes des questions qui peuvent aider le lecteur, hein, et chacun d'entre nous, donc à avancer dans ce chemin d'ajustement à ce que Dieu a voulu faire en créant l'homme, dans cette ce partenariat avec Dieu qui veut de chacun de nous une relation, enfin, il veut être en relation avec chacun de nous, eh bien, à travers ces questions, on peut aussi aller plus loin pour imiter Joseph dans cette docilité totale à Dieu et aux événements.
Je vais vous proposer, sœur Katharina Angela, auteur de cet ouvrage paru aux éditions des Béatitudes, Joseph de Nazareth selon la Bible, de vous retrouver dans quelques minutes, le temps d'une plage musicale. Et puis, on poursuit un petit peu, chapitre après chapitre, et on se rapproche aussi de Joseph, l'homme juste, hein, vous l'avez rappelé, l'homme silencieux, l'homme aussi obéissant, l'homme qui va protéger aussi la Sainte Famille. On se retrouve dans quelques minutes et merci.
Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
Nathalie Cardon.
Suite de cette émission de Vivante Église, on découvre un Joseph discret, silencieux, solide, profondément à l'écoute, un homme juste, un homme qui se lève, un homme qui protège. Mais comment cet homme silencieux est-il devenu une figure si importante dans l'Église ? Nous en parlons avec sœur Katharina Angela, auteure d'un livre paru récemment aux éditions des Béatitudes. Ce livre parle de paternité, de fraternité. Il parle de Saint Joseph, un modèle incontournable. Chère sœur Katharina Angela, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, bien sûr.
Alors, bonjour à tout le monde. Pourquoi l'Église invoque-t-elle tant Saint-Joseph ?
Alors, je dirais que le culte à Saint-Joseph a été assez tardif dans l'Église d'Occident, dans notre Église, en tout court, donc, puisque dans l'Église orthodoxe, on célèbre plutôt le Joseph d'Arimathie. Donc Joseph, il est quand même très, 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 très discret. Et pour ma part, cette discrétion est aussi un signe des temps. Et donc, voilà, c'est Léon XIII qui a, disons, parmi d'autres, choisi Joseph comme patron universel de l'Église, s'appuyant particulièrement sur le Joseph le Patriarche. Et il nous dit, tout comme Joseph le Patriarche a été mis maître de tous les biens de Pharaon, de tous les biens du monde alors connu, tout comme Joseph le Patriarche était nommé salut du monde, voilà, notre saint, notre Joseph de Nazareth, il est aussi le patron, enfin, il peut être appelé comme le protecteur, le patron de l'Église universelle, Donc c'est pour ça qu'il a appelé ainsi, et il a donc aussi repris cette phrase du pharaon à tous ces sujets. Allez à Joseph, ite at Joseph, comme vraiment le chemin le plus sûr d'aller se mettre sous la protection de Saint Joseph. Donc il faut dire que c'était Léon XIII, c'était avec toutes les questions sociales, comme notre pape Léon XIV. Hein, aujourd'hui, on bute avec tous ces changements du monde actuel. Hein, donc et à l'époque de Léon XIII, c'était fin 19e siècle. Hein, donc il y avait aussi toutes ces troubles, tous ces questionnements, toute cette avancée technologique et cette guerre avec la foi. Donc pour Léon XIII, c'était très important d'avoir Joseph comme patron. Et puis les papes qui ont suivi, pratiquement tous, ont donné une touche de dévotion particulière à Joseph, jusqu'à au pape François qui a proclamé une année dédiée à Saint Joseph. Hein. Avec un cœur de père.
Oui, il avait lui-même aussi une statue de Saint-Joseph et une prière tous les soirs à Saint-Joseph, vous en parlez dans le livre.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc, on voit bien que voilà, Saint-Joseph est invoqué dans des moments particuliers. Et pour moi, ce n'est pas un hasard, par exemple, que dans les apparitions de Fatima où la Vierge dit « Mon cœur immaculé triomphera », la dernière apparition, elle apparaît avec Saint-Joseph. Saint Joseph est là qui bénit le monde. Et Jésus imite la bénédiction de Joseph en bénissant le monde. C'est quand même quelque chose de très fort. Hein. Donc pour ma part, hein, j'y vois un signe des temps. C'est comme si Joseph était là, le rempart contre tous ces combats pour que nous gardions la paix. Il ne faut pas oublier que Saint Joseph est appelé terreur des démons. Et je suis pour ma part convaincue que c'est ce silence habité de la présence tout tourné vers la volonté du Père, ce silence de Joseph qui est une arme puissante pour nous, donc pour le combat spirituel, mais aussi la charité, la vraie charité qui nous tourne vers les autres, qui nous rend attentifs les uns aux autres.
Alors, puisque vous évoquez les apparitions, sœur Katharina Angela, ça apparaît aussi dans votre ouvrage, très peu d'apparitions, une seule apparition de Saint-Joseph est donc reconnue par l'Église, c'est celle de Cotignac, deux mots sur Cotignac, ce premier lieu d'apparition de Joseph.
Oui, premier et seul lieu reconnu officiellement par l'Église.
Tout à fait, donc, important de le préciser, oui.
Voilà, donc moi, pour ma part, je n'ai jamais eu encore la joie de me rendre à Cotignac, mais ça me paraît vraiment quelque chose d'incroyable que Joseph de Nazareth, Saint-Joseph, est apparu dans le lieu à quelques kilomètres de là, vraiment 3-4 kilomètres, est apparue la Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce, je crois que ça s'appelle, dans ce lieu d'apparition. Il est apparu là à un pauvre berger épuisé de soif, et donc, et là, il lui dit, soulève cette pierre, c'est-à-dire fais quelque chose d'impossible, c'est une pierre, 8 hommes ne réussissaient pas à la soulever, et bois de l'eau. Il obéit à l'ordre de Joseph, avec peine, hein, parce que d'abord il dit, et puis voilà, et tout de suite, et Joseph ne dit que ça. C'est-à-dire, dépasse-toi, fais quelque chose d'incroyable, quoi. Obéis aux motions de l'esprit, même si ça te paraît complètement impossible à réaliser humainement. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est fort, hein, dans notre chemin. Donc pour moi, Cotignac est un lieu aussi particulier. Donc je parle de ces apparitions-là, je parle aussi d'un lieu où le Saint-Joseph aurait apparu à une sœur aux États-Unis, où il lui dit beaucoup de choses. Donc c'est une petite annexe. Je parle aussi du frère André, hein, qui avait une très très grande dévotion à Saint-Joseph, qui a fait aussi des choses incroyables, où il y a le plus grand sanctuaire au Saint-Joseph du monde. Et là aussi, mais Joseph ne lui est pas apparu, c'était juste son cœur était très 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 proche, très très dévot à Saint-Joseph.
Alors, Joseph, il y aurait tant de choses à dire, lui qui a si peu parlé, puisqu'il a parlé aussi par un silence habité. Joseph est aussi le patron des travailleurs. Alors, pourquoi est-il devenu le patron des travailleurs, sœur Katharina Angela? Que peut-il dire aujourd'hui à tous ceux qui vivent aussi un travail, parfois un travail discret ou un travail avec des difficultés et puis peut-être beaucoup d'angoisse, de pression, de surcharge aussi?
Oui, oui. Alors, j'en parle pas directement dans mon livre, mais il est évident que Joseph est un modèle de travailleur puisque je suis certaine que son travail, il a vécu dans une... comment dirais-je, dans une précision et un dévouement absolu. Il a fait avec force aussi. Hein. Tous les saints qui nous parlent de Saint Joseph ont cette vision de Jésus qui apprend de Joseph l'art de charpentier. D'ailleurs, on l'appelle, il n'est pas le charpentier, le fils de Joseph, Jésus. Donc voilà, donc c'est quand même assez fort hein, de voir Joseph. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il était charpentier. Donc, on veut dire que les charpentiers, là, je vais vous révéler quelque chose qui est vraiment propre au silence de Joseph. C'est que dans la Bible, charpentier se dit karash en hébreu. Et ce même verbe, cette parole, les racines de ce mot, donc charpentier, sont prises du verbe qui veut dire aussi être silencieux, tranquille. Donc ça, c'est quand même la richesse de la parole de Dieu qui nous montre à quel point ce n'est pas anodin qu'il soit charpentier. Et puis pour l'époque, être charpentier était quelque chose, c'était comme l'ingénieur d'aujourd'hui. Hein. Donc c'était pas le petit artisan qui faisait rien. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une place dans la société, qui a... Voilà. Tout en étant discret et humble, comme il était, mais il n'était pas... tout le monde le connaissait. Hein. Quand on lit les évangiles, on voit bien qu'il avait une belle renommée, Joseph.
Alors, dans votre...
Et dans le travail, Joseph amène cette réalité de travailler en présence de Dieu, d'être, puisqu'il l'était concrètement tous les jours. Il travaillait avec Jésus, fils de Dieu. Et il était avec Marie, la mère de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui peut aider tant d'hommes et de femmes qui sont dans le travail et puis aussi dans la gestion du temps. Parce que quand on travaille, on peut être vite débordé hein, dans notre travail. Et dans mon livre, j'en parle, hein, comme Joseph, quelqu'un qui est gardien du temps aussi. Donc, qui peut nous aider à réaliser des choses dans les temps, sans s'affoler, mais en étant tranquille, serein, silencieux. Donc, en accueillant les événements comme ils viennent et réaliser des choses improbables comme le voyant Gaspard à Cotignac qui a soulevé une pierre que 8 hommes n'arrivaient pas à soulever. Donc, voilà.
Alors, la troisième partie de votre livre est consacrée à cette grande dévotion aussi à Saint-Joseph, plein de paroles de saints sur Saint-Joseph, de Saint-Ambroise, Saint-Augustin, Saint-Bernard, Saint-Bernardin de Sienne, vous citez Saint-François de Sales, Jean-Jacques Ollier, Saint-Alphonse de Ligorie, enfin, plein de saints. Oui. Vous citez aussi donc ces apparitions uniques, la seule reconnue par l'Église, dont vous avez aussi parlé, l'apparition à Cotignac, et puis aussi, vous terminer un petit peu cet ouvrage avec une multitude de prières à Saint-Joseph. Donc on retrouve Saint-Jean Eudes, on retrouve Léon XIII, Saint-Pie X aussi. C'est pour dire aussi, dans la vie aussi de tous ces hommes de Dieu, hein, canonisés par l'Église, tous ces saints, l'importance de prier et d'invoquer cette figure, Joseph de Nazareth. Pourquoi si important d'invoquer, et peut-être, vous l'avez rappelé au cours de cette émission de Vivante Église, sœur Katharina Angela, il parle peu, il est silencieux, mais il peut effrayer le démon.
Oui. Ouais. Et je crois que c'est important de se rendre compte qu'en fait, dans notre vie spirituelle, la parole nous élève, mais elle peut aussi nous perdre. La parole, comme dit Saint Jacques dans l'Épître, c'est le plus petit membre de notre corps, mais c'est comme le gouvernail. Donc il peut à la fois nous porter vers, nous mettre au large, hein, nous conduire pour vaguer voilà, dans l'océan, vers les hauteurs. Et puis elle peut aussi nous conduire dans ces tempêtes où on s'en sort pas difficilement. Donc je crois que cette école de Saint-Joseph que les saints ont pu voir, mais pas seulement le silence, aussi sa façon d'être chaste, sa façon de protéger la Vierge Marie et l'enfant, sa façon de se mettre à leur service. Dans un temps total et désintéressé de lui-même, comme dirait Saint Jean-Paul II, sa façon d'obéir au moindre signe que Dieu lui fait, sa façon de mettre toute son intelligence au service du royaume, finalement, comme l'a fait le patriarche. Sa façon, finalement, pour moi, Joseph est le type même du Fils, du Fils de Dieu. Et on peut le voir dans Joseph le patriarche, quand il reçoit la bénédiction de son père Jacob, il est dit dans le texte biblique hébreu, fils fertile est Joseph. C'est-à-dire, on insiste par deux fois que Joseph est un fils fertile. Et plus loin, dans le texte même en hébreu, il y a un mot qui est utilisé, il a la pierre d'Israël, Eben. Et donc ce mot de pierre, il est construit par deux racines, deux racines, père, Eb, Av, et fils, Ben. Eben. Donc, et pour ma part, je trouve que c'est très significatif de voir comment déjà inscrit dans la mission, tout ce qu'on dit, la parole dit de Joseph, il est super-fils, ce fils père. Il est fils parce que, enfin, il est père parce qu'il a pu être vraiment, il a su être vraiment fils de Dieu, de tout se laisser conduire par le Père en tout, hein. Et même le patriarche Joseph était silencieux quand il a été jeté dans la citerne, il n'a pas crié. Quand il a été humilié par la femme, il n'a pas crié, il s'est enfui. Donc c'est ce type de modèle-là de combat spirituel, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel, qui peut nous aider aujourd'hui. Il y a des moments dans notre vie où se taire, c'est une grande force.
Alors si vous deviez, on arrive à la fin de cette émission de Vivante Église, sœur Catherine Angela, si vous deviez en une phrase dire ce que Saint Joseph offre aujourd'hui à nos auditeurs, que diriez-vous, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph?
Je dirais, mettons-nous tous sous sa protection, et puis demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin, parce qu'il n'est pas avare pour nous apprendre les chemins de la vie spirituelle, pour nous apprendre l'amour de Jésus et de Marie, l'amour du Père. Donc, comme disait la grande Sainte Thérèse d'Avila, je n'ai jamais rien demandé à ce grand saint que je ne l'ai obtenu. Il m'a donné même plus que ce que je n'osais demander. Donc, elle a été d'abord guérie, ensuite elle a été enseignée, elle, la maîtresse spirituelle de la vie de raison, hein. Donc, voilà.
Alors, en ce jour de Saint-Joseph, nous confions particulièrement tous les pères de famille, tous les travailleurs, ceux qui portent également des responsabilités dans l'ombre, parfois cachées, ceux qui traversent des épreuves, ceux qui sont peut-être dans ce temps aussi de l'agonie vers la mort. Saint-Joseph, gardien du Rédempteur, veille sur nos familles et sur chacun de nous. Et bien sûr, je vous remercie, sœur Catherine Angela, d'avoir été avec nous par téléphone dans cette émission, ce jour de fête de Saint-Joseph, que nous pouvons implorer aussi pour la protection aux côtés de la Vierge Marie, pour la protection du monde. Je rappelle que vous venez donc d'écrire un livre, Joseph de Nazareth selon la Bible, aux éditions des Béatitudes. Je vous remercie infiniment, sœur Catharina.
On peut peut-être terminer notre émission avec peut-être la prière de l'Ave à Joseph.
Alors si vous voulez bien. Mais très vite, très vite.
Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Saint-Joseph, priez pour nous.
Saint-Joseph, priez pour nous. Merci, ma sœur. Au revoir.
Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.